Bonjour à tous, tout de suite une émission spéciale de Salima.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale que l'on consacrera à un groupe de punk français né en 1993 et qui depuis, sous influence parabellumique, ramonesque ou encore berruriesque, a lui-même accouché de Plus de bruit en 98, Virus, de Feu aux poudres en 2006, de Dissident, de La peste et le choléra en 2017 et qui sort aujourd'hui son 10e album, À feu et à sang. Un album vif, mélodiquement enragé, libre de style, qui ne demande qu'à s'éclore et se hurler sur scène. Un jour très prochain, on espère. Avec nous, le chanteur-crieur de Tagada Jones, Nico. Bonjour Nico.
Bonjour, salut.
Bienvenue sur notre antenne.
Ben merci.
Alors, Nico, d'abord, j'ai envie de vous demander comment ça va.
Eh ben, ça va, on va dire mode confiné. Donc, on aimerait vraiment pouvoir jouer beaucoup plus. Et puis, voilà, c'est vrai que on vient de sortir l'album. Habituellement, quand on sort un album, on se retrouve directement à brûler les planches. Là, malheureusement, c'est un exercice qu'on ne peut pas effectuer à cause du confinement. Mais bon, on prend notre mal en patience, je dirais.
Alors justement, votre dixième album, alors quand je parle de dixième album, c'est hors album EP, hors album live, donc il est sorti fin octobre dernier, il devait sortir à la base en septembre. Alors comment, bon, vous avez un peu répondu, comment est-ce que aujourd'hui vous appréhendez le contexte de cette sortie, ou en tout cas comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que ça vous met la rage
ou
êtes un peu plus philosophe à vous dire bon?
Non, je pense que bien sûr qu'on met de la philosophie là-dedans. On peut pas. Il faut être un petit peu condescendant avec tous les gens qui sont plus confrontés au Covid que nous. Mmh. C'est vrai que voilà, pour le moment, on ne peut pas jouer. On est confiné comme tout le monde. Mais effectivement, on le prend avec un petit peu de philosophie. Bon, je sais que pour nous, on a indirectement un petit peu d'activité maintenue parce que voilà, il y a toute la promo autour de l'album. On va faire notre résidence, on a quand même finalement acté le fait de faire une résidence. On peut d'abord le faire en évidemment en septembre, ça a été repoussé en novembre, et puis là maintenant on va la faire en décembre. Donc il y a quand même un petit peu de lueur, je dirais, musicale dans tout ça. Et après, c'est sûr que aujourd'hui, on ne connaît même pas notre planning de début de 2021. Donc, pour un groupe comme nous, qui avons l'habitude de faire plus de 100 dates par an, c'est sûr que c'est un peu étrange. Oui.
Et quel accueil pour le moment est-ce que vous avez de cet album À feu et à sang?
Alors, on a un album, un accueil qui est incroyablement positif de la part des médias et du public. C'est moi, je suis très heureux de ça parce qu'on voulait un album hétérogène et on s'est donné quelques petits exercices, notamment l'exercice de style pour essayer de sortir de nos sentiers battus et ne pas faire une parodie de nous-mêmes. Moi, j'avoue que parfois, je suis vraiment déçu de certains albums d'artistes dont je suis fan ou j'ai pu être fan, et en me rendant compte qu'au bout d'un moment, l'album s'auto-parodie, on voulait vraiment pas ça. On a donc pris certains risques. Mais quand on prend des risques, on ne sait pas si ça va être payant ou pas. C'est-à-dire que voilà, on a essayé des choses musicales un petit peu différentes. On n'est pas en train de parler d'une révolution non plus, faut pas exagérer, mais une façon d'écrire différente, quelques instrus différentes. Enfin voilà, on a essayé de changer un petit peu. Et donc la première réaction de toute la prod et les gens proches ont vraiment été positives. Donc on a décidé de mettre tous ces morceaux un petit peu différents sur l'album. Parce qu'on en a composé 20, on en a mis 14 sur l'album. Mais tous les morceaux un petit peu différents sont dessus. Et le retour est incroyablement positif. Et ça, ça nous ravit. On est vraiment très heureux de ça. Hein.
Et justement, les styles sont plutôt variés, effectivement, sur cet album. Donc, on a du punk, on a du rock, on a du métal, du bon vieux métal, avec notamment le dernier Baril. Mmh. Donc ça c'était voulu au départ, donc histoire de pas faire un replay de la peste et le choléra, notamment. Comment est-ce que vous le qualifieriez? Est-ce que vous êtes content, vous, de cet album? Et comment est-ce que vous le qualifieriez?
Alors, content, oui, hein, c'est ce que je disais dans la question précédente. On est vraiment très, très content. Et je pense que si je dois le qualifier, je pense qu'il est hétérogène. C'est-à-dire qu'il est plus varié et plus ouvert que les albums précédents. Après, en termes de style, je pense que le fond, c'est toujours le même fond de Tagada. Je crois que Tagada, on est un groupe, pour ceux qui ne connaissent pas trop, totalement autoproduit, DIY. On est vraiment parti de rien. On s'est construit tout seul, donc ça a pris un peu de temps. Mais le groupe n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, je dirais. Et ce qu'on a construit, notre passé, c'est un groupe très vindicatif. On a toujours dit ce qu'on avait à dire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et je pense que le discours qui pouvait être vu il y a quelques années comme étant un peu rébarbatif, oh, ils sont chiants ceux-là à nous faire la morale, on a été un des premiers groupes punk à faire un morceau écolo, c'était pas bien vu de faire un morceau écolo quand on était punk il y a plus de 20 ans, enfin c'était pas très punk plutôt de faire un morceau écolo. Aujourd'hui on voit bien que c'est dans l'air du temps, beaucoup plus, et donc je dirais que le fond de Tagada n'a pas du tout changé. Nous on change un petit peu la forme pour ne pas se répéter, par contre le contexte a énormément évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement on est beaucoup plus suivi que ce qu'on a pu l'être auparavant.
D'accord.
It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes.
Ces hommes hérissés, déguenillés, hurlants, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, qui se ruaient sur le vieux Paris bouleversé, que voulaient-ils? Ils voulaient la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l'homme, l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous, l'édénisation du monde, le progrès. Et cette chose sainte, bonne et douce, le progrès, poussé à bout, hors d'eux-mêmes, il la réclamait terrible, demi-nu, la massue au poing, le rugissement à la bouche. C'étaient les sauvages, oui, mais les sauvages de la civilisation. Ils proclamaient avec furie le droit. Ils voulaient, fût-ce par le tremblement et l'épouvante, forcer le genre humain au paradis. Ils semblaient des barbares et ils étaient des sauveurs. Ils réclamaient la lumière avec le masque de la nuit.
Alors, ce texte qu'on vient d'entendre, Nico, est celui de Les Misérables de Victor Hugo, donc qui est lui-même extrait d'un documentaire qui est actuellement en diffusion sur Arte TV, Les Misérables, donc de Victor Hugo. Alors, concernant les sujets abordés par Tagada Jones depuis toujours, autrement dit depuis ses débuts, donc vos textes sont toujours engagés, contestataires, ce qui constitue l'ADN de Tagada. Vous tutoyez le monde, etc. Alors, depuis les débuts, encore une fois, de Tagada Jones, avec de la distance, quelle valeur a pris cette contestation au gré de l'âge du groupe, au gré de votre âge, de votre expérience, du succès aussi de Tagada?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai que nos valeurs fondamentales, comme je disais tout à l'heure, on les exprime depuis le début du groupe. Après, indirectement, notre oratoire a pris de l'ampleur de par la notoriété et le succès du groupe qui a grandi. Donc avant, il est vrai que c'était un peu plus confiné, presque, je pourrais dire. La répercussion était moins importante. C'est vrai que nos valeurs humanistes, solidaires, sociales, que je qualifie tout le temps de effectivement... on est un groupe de gauche avec des idées anarchisantes, évidemment. Il y a le capitalisme sauvage est vraiment quelque chose qui nous dérange. Par contre, on est tout à fait conscient aussi d'être dans le système. Parfois, il y a certaines personnes qui disent « Oui, mais vous critiquez le système. » Oui, mais on critique le système, mais on est conscient d'être à l'intérieur du système et de vivre dans le système. On n'a jamais dit qu'on n'était pas dans le système. De toute façon, les gens qui sont hors système, je crois qu'il y en a qui n'agissent pas du tout. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les rouages du système. Et donc, on a pris le parti pris, c'est qu'à le dire, au tout début du groupe, de mettre le doigt sur ce qui pouvait nous énerver sur un instant T. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de morceaux comme ça sur le vif, en réaction à chaud. Ça a été beaucoup le cas dans notre discographie. Et voilà, je pense que c'est effectivement... aujourd'hui, je crois que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le contexte a énormément changé. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans notre discours, notre expérience et notre positionnement qui est stable depuis des années. Et je crois que cette stabilité, c'est aussi quelque part une certaine chose que la jeunesse peut chercher en ces moments où qui sont plus instables que jamais, où tout part à volo, où on ne peut plus se reposer sur pas grand-chose. Voilà, au moins... Le fait que l'on n'ait jamais changé notre fusil d'épaule, qu'on ait toujours gardé notre cap engagé, enragé, indépendant, hein, parce qu'on est vraiment quand même un groupe indépendant. C'est aussi pour ça que ça a été très long et très dur de se faire un petit peu connaître, parce que évidemment, il n'y a jamais eu de gros budget de promo, de com, de mise sur le groupe. Et quand on est parti pour la première fois faire des concerts, oui, c'était avec un camion qu'on a fait perso pour pouvoir faire des kilomètres. On était souvent payé beaucoup moins que ce qu'il nous fallait en essence pour se rendre sur le lieu du concert. Donc on a commencé dans les squats, on a commencé dans les cafés-concerts. Enfin voilà, je crois que aujourd'hui c'est le contexte qui a beaucoup changé pour énormément de choses.
Nous avons la haine, la rage dans les yeux. Nous avons la haine, la
groupe a aujourd'hui 27 ans quand même. Au niveau des membres du groupe, ça a pas mal bougé. Et ça fait là à peu près 7-8 ans, me semble-t-il, que les membres sont restés les mêmes. Vous êtes là depuis le début. Et rapport à ces débuts, c'est toujours la même chose. Alors, on revient là-dessus, justement, c'est toujours la même chose. Pour vous, vous abordez la musique de la même manière, avec la même volonté. Est-ce que vous faites de la musique aussi pour les mêmes raisons qu'au départ? Est-ce qu'il y a cette idée d'intégrité?
Je pense qu'on ne fait pas la musique pour les mêmes raisons. Je pense qu'au tout début, moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que je suis le dernier survivant de la première mouture Tagada, on va dire. Mais bon, il ne faut quand même pas oublier qu'on était encore au lycée quand on a commencé le groupe. Ce qui se passe, c'est qu'on fait de la musique de manière un petit peu égoïste et personnelle. Pour se faire plaisir, on commence à faire de la musique entre copains, dans une chambre ou dans une petite cave, et puis on joue un peu pour nous. Et puis, avec le temps, la tendance s'inverse complètement parce qu'on ne fait plus... Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne fais que jouer pour les gens, pour le public. Mon plaisir personnel n'est pas de m'enregistrer, de m'écouter, pas du tout. Mon plaisir personnel, c'est de jouer et d'échanger et de partager avec le public. Donc, on se nourrit du public. Le public se nourrit aussi de nous, de notre énergie, de notre musique. Mais nous, on se nourrit du public. Et je crois que c'est l'énorme différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne compose pas des morceaux pour nous, pour se faire plaisir. On compose des morceaux en les imaginant live, en les pensant live et en les pensant échange avec le public.
Alors là, on va s'écouter un titre, Nico, que vous avez fait, que vous avez chanté quand vous étiez tout gamin.
Non mais, allons-y.
Ce morceau, c'est 3615, c'est tiré de votre premier EP, Nico, le premier EP de Tagada Jones qui date de 95. Vous vous réécoutez de temps en temps? Vous
réécoutez Jamais. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes, je pense, de ne pas réécouter photographie. En fait, on peut réécouter par hasard parce que ça passe à la radio, ou par hasard parce que dans un bar, ils se mettent à diffuser, ou voilà, mais sinon, moi, je réécoute jamais la discographie. Et c'est rigolo parce qu'on voit que la voix a changé. On sent la voix un peu plus un jeu plus jeune à l'époque.
Vous aviez quel âge en 95? Vous aviez la petite vingtaine?
Voilà,
toute petite vingtaine,
même pas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le groupe il a commencé à assez vite sur les centres du rock alternatif. Je donne souvent cette image-là, mais ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment tous les groupes alternos qui allaient de la frange un peu plus dure, comme les Parabellum ou les Berruriers Noirs, à des choses plus légères comme Noir Désir ou Mano Negra. En fait, ce sont quand même tous ces groupes-là qui nous ont mis le pied à l'étrier. Et je dis souvent, même encore aujourd'hui, nous, on a une influence qui est assez large. On a toujours mis dans notre musique un petit peu de rock, un petit peu de métal, un petit peu de punk, un petit peu d'électro même. Et en essayant de ne pas se donner de carcan. Et en fait, quelque part, certaines chroniques sur cet album disent on sent que finalement, le groupe, c'est un groupe de rock français. Mais c'est vrai qu'on est un groupe de rock français, on chante en français, donc c'est ce qui fait que les gens ont cette symbolique qui arrive assez vite. Mais il est aussi vrai qu'on est vraiment issus de ce milieu-là. Ça a été vraiment notre ADN, c'est notre ADN, et on sent un petit peu ça aussi dans ce vieux morceau 3615, mmh. qui parlait des Minitel, le des temps Minitel, est revenu, là, ouais. par contre, des Minitel.
Ouais. Ouais, c'est pour ça, c'est vraiment un autre temps, une autre ère. Nico, vous aujourd'hui, si vous aviez des groupes que vous deviez désigner comme des héritiers, quel groupe ? Parce que vous parlez, vous êtes les héritiers, en tout cas sous influence de Parabellum, de Ramones, Berruriers, les Berrues. Et vous, est-ce que vous voyez des groupes qui pourraient être dans votre lignée ?
Ben, en fait,
dans la lignée de Tagada
Jones. Il y a
Jones.
Énormément de groupes qui sont dans notre lignée, mais qui sont des groupes qui n'ont pas percé. Je dirais que nous, on est issus de cette mouvance rock alternative française, mais qui a été une grosse vague. Ça a été une déferlante, et donc ça a été à la mode, même cette musique-là. Donc il y a eu énormément de répercussions. Hein. Donc forcément, il y a eu pas mal de groupes, et nous, on est quasi finalement un petit peu dans les derniers. Nous, on est un peu, oui, les derniers petits frères des groupes, nos grands frères, ça va être L'Opocora, ça va être No One is Innocent, ça va être. Voilà. Évidemment, Trust qui a ouvert pas mal de portes dans la lignée de chanter en français avec de la musique dure. Mais en fait, derrière nous, les jeunes sont passés à un autre type de musique. J'ai un peu cette impression-là. Donc, pas tout le monde. Il y a des groupes rock, il y a des groupes punk rock, mais des groupes punk rock qui ont, je veux dire, pris leur envol de manière assez importante pour être connus nationalement, et ben, il n'y en a pas vraiment. Quoi. Donc, je sais que ce qui est assez drôle. C'est qu'il y a un groupe qui s'appelle 22 Long Riff qui est de Plédran, et moi je suis de Plédran à côté de Saint-Brieuc à la base, qui est sur une mouvance punk assez dure comme ce qu'on pouvait faire au début. Voilà, ça c'est peut-être nos petits frères, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de groupes que ça finalement. Par contre, j'ai comme un pressentiment que justement. Le rock un peu dur chanté en français est un petit peu en train de retrouver oui. ses lettres de noblesse et que par contre des petits frères on va peut-être en avoir dans les années à venir.
Ouais. Donc des petits enfants quoi.
Ouais.
Très grand père quoi. Et Tagada, vous faites des tournées internationales. Vous deviez notamment tourner aux États-Unis. Vous êtes allé au Japon, en Asie. Qu'est-ce qui plaît à l'étranger chez Tagada ? C'est quoi ? C'est votre énergie ? C'est la musique évidemment, mais quel est l'accueil du public japonais, du public new-yorkais, si vous avez déjà été à New York ?
Oui. Bah, en fait, ce qui se passe avec Tagada, c'est que on a tissé une espèce de toile d'araignée underground alternative qui est basée sur les échanges avec des groupes et structures un peu équivalentes aux nôtres.
Arrache-tour
ou à Tagada, soit sur le groupe, soit la structure. Ouais. Et on a fait pas mal d'échanges. On les a fait venir d'abord en France. Je dirais même, au début, on les a fait venir en Bretagne, après on les a fait venir en France, après on les a fait venir en Europe.
D'accord.
Et vice-versa. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a développé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges avec beaucoup de groupes, mais depuis très longtemps. Donc, c'est-à-dire, ça fait quand même ça fait aujourd'hui 27 ans que le groupe existe. Ça fait 25 ans qu'on... Peut-être pas 25, allez, 24 ans qu'on va jouer à l'étranger. Et voilà. Et avec le temps... On a réussi à, je dirais, casser les barrières des frontières, qui est pas facile pour un groupe qui chante en français. Par contre, une fois qu'on est arrivé sur place, je dirais que le plus dur, c'est d'y aller. Parce qu'une fois qu'on est sur place, notamment les anglo-saxons, parce que je pense que c'est là où c'est le plus incroyable, ont tous la même réaction à la fin des concerts de Tagada, c'est de dire « Waouh, so exotique !» On est un groupe exotique, quoi. On chante pas en anglais. « Waouh, bah c'est génial, ça change !» Et en discutant un petit peu avec eux, on se rend compte que ils ont pas spécialement envie d'avoir des groupes européens ou français ou qui font des copies de groupes américains ou de groupes anglais parce que pour eux, ils n'y voient pas l'intérêt, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Et que nous, on arrive avec une musique qui, pour eux, est exotique, différente. Et c'est ça, je pense, qui plaît pas mal. Donc, évidemment, ils n'ont pas forcément l'univers des textes, même si je pense qu'on comprend d'une manière générale l'idée des morceaux, surtout que je la présente un petit peu en anglais entre les titres. Mais par contre, ils ont l'énergie du groupe et la musique. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que pour nous, ça fait un concert qui est différent des concerts qu'on peut donner en France.
Ouais. Et j'allais vous poser pour terminer. Quand je dis, on va terminer là-dessus, c'est pas vrai, faut pas me croire. Mais je le dis quand même. On va terminer sur cette question justement des concerts, des prochaines dates. Bon, évidemment, ça, on n'en sait rien. Mais un jour prochain, quand vous pourrez booker, parce que vous-même, Nico, vous êtes booker, quand vous pourrez à nouveau booker des dates, donc pour Tagada, quelle serait la première scène? Après tout ça, quand on pourra être debout, hein, allez, rêvons un petit peu, quelle serait la scène sur laquelle vous voudriez aller vous déchaîner, soit un festival, une salle, un café-concert? Là, si on vous disait, allez, choisis une scène, sur quelle scène vous iriez?
Bah, c'est pas facile. Moi, je dis souvent... Je prends l'exemple du Hellfest, parce qu'on a vécu un concert incroyable au Hellfest, mais vraiment dingue, où on était en communion avec le public. Mais nous, comme je dis que ce que l'on cherche, c'est vraiment à être en phase avec le public et vraiment qu'on se nourrit de l'énergie du public, ce qu'on a besoin, c'est de sentir le public le plus proche possible. Et parfois, dans les grands lieux comme ça, ça peut être du tout au tout, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une sensation de lointain. Mmh. Or, ce concert-là du Hellfest, par exemple, je prends un exemple parce qu'il était extraordinaire, parce que la Warzone, elle sonne un petit peu comme une petite arène, entre guillemets, c'était archi blindé, les gens étaient chauds bouillants, et puis on a tous pété les plombs en même temps, et ça, c'était magique. Mais c'est assez rare que ça arrive dans des grands lieux, en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et que souvent... ça arrive dans des petits lieux. Ça donne l'effet un petit peu de ce que les gens peuvent dire quand ils disent on adore aller voir nos groupes préférés dans des cafés-concerts ou dans des petits lieux parce qu'il y a de la proximité et il y a une osmose incroyable et ça marche dans les deux sens. Donc c'est vrai que c'est plus dur à trouver dans les très grands lieux que dans les petits. Oui. Donc moi, je ne dirais pas qu'il y a un lieu en particulier qui me fait vibrer parce que je pense même que des fois, on peut faire deux concerts dans une même salle, et il y en a un des deux où ça va partir en vrille, mais positivement, où on va tous péter les plombs en même temps, alors que pour X ou Y raison, la fois d'avant, ça ne l'avait pas fait, par exemple. Quoi. Mais moi, ce que j'ai surtout envie, c'est de retrouver le public, de retrouver cette sensation de proximité, de salle, d'énergie commune. C'est vraiment ça qui me fait vibrer, là, qui, la petite flamme qui nous anime, elle attend que ça.
Et est-ce que vous pensez à l'après, c'est-à-dire notamment à l'après, au prochain album, puisque vous sortez beaucoup d'albums, enfin vous êtes très prolifique en termes d'albums. Est-ce que vous imaginez ce qu'il sera ou avec qui il sera? Je vous pose notamment cette question pour savoir si cette situation-là que nous vivions aujourd'hui, ça vous donne envie de d'autres perspectives. Est-ce que ça vous fait cogiter sur la manière de travailler? Est-ce que vous avez un nouvel élan que vous connaissiez pas jusqu'alors?
Je dirais un nouvel élan, c'est pas forcément le mot. Non, je pense qu'en fait, je dirais que, je sais pas comment dire ça, la perspective elle est différente dans le sens où on sent que de toute façon les codes vont changer, les codes des concerts vont changer. On sait que tous les premiers concerts vont devoir se faire avec des règles sanitaires différentes. Donc il est vrai que par rapport à ça, je pense qu'on se remet forcément en question. Et moi, depuis le début du confinement, je dis, notamment, faudra jamais dire jamais, quand les gens posaient la question, mais est-ce que vous accepteriez de jouer devant un public assis?
Oui.
On m'aurait posé la question il y a un an, j'aurais dit, mais vous êtes malade, vous êtes fou. Or, aujourd'hui, force est de reconnaître que ça peut nous arriver. Et on se projette, on a un peu du mal à se projeter parce que tout change très très vite, régulièrement. Mais oui, je pense que il n'y a pas vraiment de grosse remise en question. On se dit on va composer plus ou non. Comme je disais, comme on compose pour vivre nos morceaux et les ressentir en live, on a besoin de les jouer. C'est juste la façon dont on va les jouer sur laquelle on s'interroge un petit peu.
Et pour terminer, ça c'est vraiment pour terminer, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, Nico?
Dans les albums qui sont sortis, je dirais que le dernier album de nos amis de la phase, D'ailleurs, qui sont
avec qui on bosse,
avec qui on bosse, avec qui on est très très proche. Voilà, c'est vraiment des gens qu'on apprécie et qu'on aime beaucoup. Et puis en album pas encore sorti parce que j'ai la chance de travailler sur pas mal de projets et puis des gens qui nous envoient des albums en cours, on va dire. Donc c'est quand même hyper intéressant. Je dirais qu'il y a La Poison qui m'a envoyé des choses que j'écoutais aujourd'hui, ou alors Cachemire, qui est aussi un groupe de Nantes avec qui on est en train de travailler sur les pré-productions de l'album.
Ok. Eh bien, merci beaucoup, Nico. Je vous libère à la bourre.
Merci.
Désolée.
Mais c'est pas grave, on était un peu à la bourre. On commençait, c'est de ma faute, donc tout va bien.
Et juste, le À Feu à Sang, donc votre nouvel album, on le trouve où, en dehors des grandes structures?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est dans toutes les grandes enseignes qui sont fermées. Donc, je pense que les gens peuvent quand même le récupérer en click and collect, partout. Et puis, au déconfinement, il y sera évidemment toujours. Et puis, sinon, il y a notre site de VPC officiel, www.merchenligne.fr, où effectivement, là, il est possible de se procurer directement en VPC.
D'accord. Eh bien, à bientôt, Nico. À bientôt sur scène. Et on va se quitter avec justement le morceau qui clôt À Feu à Sang, magnitude 13, qui est très joli.
Bah, merci.
C'est bien, vous parlez d'amour.
Bah oui.
C'est bien. Alors, à bientôt et bonne continuation.
Merci. Bye.
Ciao.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, comme toutes les autres, sur le site internet de la radio.
Suis-je fier ? Ne le suis-je pas ?
Merci à Manu et Julien d'avoir assuré la mise en onde de cette émission.
De moi.
Merci de votre écoute. Et à bientôt sur Alternante.
Es-tu fier ou ne l'es-tu pas? As-tu honte de toi? Yeah!